présent. De retour à la maison, après le déjeuner en compagnie de Diane et Esther, je monte dans ma chambre, comme toujours. J'entends le cliquetis de la clé dans la serrure, et quelques minutes plus tard, le ronronnement des volets qui descendent. Précaution supplémentaire contre l'improbable éventualité que je trouve une façon de franchir la porte verrouillée et que je gagne le vestibule au rez-de-chaussée. Mes oreilles, désormais habituées à repérer le plus ténu des sons, puisqu'il n'y en a aucun ici, ni musique, ni télévision, susceptibles de les stimuler, captent le bourdonnement du grand portail noir extérieur, puis le chuintement des pneus sur le gravier. Je n'éprouve pas l'anxiété qui est la mienne d'ordinaire quand Jacques part, car aujourd'hui, j'ai été nourrie. Il est arrivé qu'il ne rentre pas pendant 3 jours d'affilée. J'étais sur le point de manger le savon de ma salle de bain. J'observe la chambre qui, ces 6 derniers mois, est devenue ma cellule. Elle est spartiate. Un lit, une fenêtre à barreaux et une seconde porte qui donne sur un cabinet de toilette exigu, unique accès à un univers différent. Douche, lavabo et toilette, un morceau de savon ridicule et une serviette en sont ses seuls ornements. Bien que je connaisse le moindre centimètre carré de ces 2 pièces, je m'entête à les fouiller des yeux, animé par l'idée constante que j'ai peut-être loupé quelque chose qui rendrait ma vie plus tolérable, un clou avec lequel je pourrais graver ma détresse sur le rebord du lit ou, au moins, laisser une trace de mon existence. Dussé-je disparaître brutalement? Sauf qu'il n'y a rien. Et puis, Jack ne complote pas ma mort. Son projet est beaucoup plus subtil. Comme toujours quand je songe à ce qui se trame, je prie ardemment pour qu'il se tue dans un accident de la route en rentrant du travail. Si ce n'est pas ce soir, avant la fin du mois de juin, avant que Millie emménage avec nous. Après, il sera trop tard. Je n'ai pas de livre, pas de papier ou de stylo susceptible de m'offrir des distractions. Je passe mes journées suspendues dans le temps, fragments d'humanité amorphe. Du moins, c'est comme ça que Jack le voit. En vérité, je ronge mon frein, guettant que la minuscule occasion se présente, ce qui ne manquera pas de se produire. Si je cessais d'y croire, comment tiendrais-je? Comment réussirais-je à poursuivre la mascarade qu'est devenue ma vie? J'ai vraiment cru que j'avais une chance aujourd'hui, ce qui, rétrospectivement, a été plutôt bête de ma part. Comment ai-je pu, une seconde, envisager que Jack me laisserait assister seul à un déjeuner grâce auquel je lui aurais échappé? La raison de mes illusions, c'est qu'il ne m'avait encore jamais conduite jusqu'au bout, se bornant à jouer avec mes espoirs. La fois où j'ai raconté à Diane que j'avais oublié notre rendez-vous, nous avons parcouru la moitié du trajet jusqu'au restaurant, avant qu'il fasse demi-tour. Hilar devant la déception cruelle qui s'affichait sur mes traits dévastés quand je me suis rendu compte que je ne m'enfuirais pas non plus ce jour-là. Souvent, je songe à le tuer. Ça m'est impossible. Je n'en ai pas les moyens. Je n'ai accès ni aux médicaments, ni aux couteaux, ni à aucun outil destructeur, car Jack veille à tout. Si je demande une aspirine parce que j'ai mal à la tête, et s'il daigne me l'apporter, il attend que je l'ai avalée pour que je ne la cache pas, par peur sans doute que j'ai l'idée de les stocker, migraine après migraine, jusqu'à en avoir assez pour l'empoisonner. Tous les repas qu'il me monte sont servis sur une assiette en plastique, avec des couverts et un gobelet en plastique. Lorsque je prépare le dîner pour des invités, il ne me quitte pas d'une semelle, et surveille soigneusement si je range les couteaux dans leur écrin, au cas où je tenterais d'en dissimuler un sur moi pour l'empoignarder au moment opportun. Ou bien, c'est lui qui se charge de trancher et de découper à ma place. Et puis, à quoi me servirait de l'éliminer? Si on m'envoyait en prison ou si j'étais en attente d'un procès, qu'adviendrait-il de Millie? Pourtant, je n'ai pas toujours été aussi passive. Avant d'avoir pris toute la mesure de l'impasse dans laquelle j'étais, j'ai fait preuve de pas mal d'ingéniosité pour tenter de filer. Au bout du compte, j'ai admis que ça n'en valait pas la peine. Le prix que je devais payer alors était de plus en plus élevé. Délaissant le lit où j'étais assise, je vais regarder par la fenêtre le jardin en bas. Les barreaux sont si rapprochés qu'il serait futile de briser la vitre dans l'espoir de me faufiler entre eux. La probabilité que je déniche un objet qui me permettrait de les limer avoisine 0. Même si, par miracle, je mettais la main sur quelque chose, lors d'une des rares occasions où je suis autorisée à sortir, par exemple, je ne serais pas en mesure de m'en emparer puisque Jack est constamment à mon côté. Il est mon gardien, mon maton, mon geôlier. Je n'ai pas le droit de me rendre quelque part sans lui, pas même aux toilettes dans un restaurant. Il est persuadé que s'il me perdait de vue, ne serait-ce que 2 secondes, J'en profiterai pour confier ma détresse à quelqu'un, pour demander de l'aide ou pour me sauver. Or, je ne ferai rien de tel, plus maintenant, à moins d'être certaine à 100% qu'on me croit. Je dois penser à Milly. C'est à cause d'elle que je n'appelle pas au secours dans la rue. De surcroît, Jack est bien plus crédible que moi. Une fois, j'ai tenté le coup. On m'a prise pour une folle, tandis que lui recevait des marques de compassion parce qu'il avait à supporter mes délires incohérents. S'il n'y a pas de pendule dans ma chambre, et si je n'ai pas de montre, je suis devenue experte pour deviner l'heure. C'est plus facile en hiver, quand la nuit tombe tôt. L'été, je n'ai pas de notion précise du moment exact où Jack revient. Pour ce que j'en sais, ça pourrait s'étaler entre 19 et 22 heures. Aussi bizarre que ça paraisse, les bruits de sa présence me réconfortent. Depuis ces 3 jours où il a disparu, je redoute de mourir de faim. Il l'a fait pour me donner une leçon. Si j'ai appris quelque chose à son sujet, c'est que tous ses actes et toutes ses paroles sont calculés jusqu'au plus infime détail. Il s'enorgueillit de ne dire que la vérité et adore que je sois la seule à comprendre ses sous-entendus. Son commentaire lors du dîner sur l'arrivée de Milly qui allait ajouter du piment à notre existence n'est qu'un exemple de ces demi-mots. Pareil quand il a souligné que c'est de découvrir que j'étais prête à me sacrifier pour Milly qui l'a amené à comprendre que j'étais celle qu'il avait cherchée toute sa vie. Ce soir, selon mes estimations, il rentre vers 20 heures. J'entends la porte s'ouvrir et se refermer, ses pas dans le vestibule, le cliquetis du trousseau qu'il jette sur la console. Je l'imagine sortant son téléphone de sa poche, et la seconde d'après, retentit un bruit sourd quand il le pose à côté des clés. Il y a un court silence, puis c'est le battant de la penderie qui grince lorsqu'il suspend son manteau. Je connais suffisamment ses habitudes pour savoir qu'il va se rendre droit dans la cuisine afin de se verser un whisky. Mais juste parce que ma chambre est située au-dessus de cette pièce et que j'ai appris à distinguer les différents sons qui rythment le début de ces soirées. En effet, une minute plus tard environ, peut-être après qu'il a jeté un coup d'œil au courrier, je l'entends gagner la cuisine, ouvrir le placard, y prendre un verre, le refermer, marcher jusqu'au congélateur, l'ouvrir, tirer un compartiment, en sortir le bac à glaçons, le faire craquer pour en extraire 2 et les laisser tomber dans le verre, l'un derrière l'autre. Je l'entends ouvrir le robinet, remplir le bac, le ranger dans le tiroir, refermer ce dernier et claquer la porte, attraper la bouteille sur le comptoir, la déboucher, se verser un trait de whisky, la reboucher, la remettre à sa place, prendre son verre, faire tourner l'alcool autour de la glace. Je ne l'entends pas avaler sa première gorgée, mais je l'imagine le faire, parce qu'il s'écoule toujours quelques secondes avant que je l'entende retraverser la pièce, sortir dans le hall et franchir le seuil de son bureau. Il se pourrait qu'il m'apporte à manger au cours de la soirée, mais après tout ce que j'ai avalé au déjeuner, je ne suis pas inquiète s'il s'en abstient. Les repas qu'il m'apporte sont irréguliers. Il arrive que j'en ai un le matin ou le soir, ou pas du tout. Quand il daigne me donner un petit déjeuner, ce dernier se constitue de céréales et d'un verre de jus, ou d'un fruit et d'un verre d'eau. S'il s'agit d'un dîner, ça varie entre un festin de 3 plats avec un verre de vin et un simple sandwich accompagné de lait. Jack est conscient que rien ne réconforte comme le train-train, alors il me prive de tout semblant de routine. Ce qu'il ignore, c'est qu'il me rend service. Trop d'habitude pourrait faire de moi une perpétuelle assistée, incapable de réfléchir par moi-même. Or, il faut que je réfléchisse. Il est atroce de dépendre de quelqu'un pour les détails les plus basiques de l'existence. Grâce au robinet de ma salle de bain, je ne mourrai pas de soif, c'est déjà ça. D'ennui, ce serait possible, en revanche, dans la mesure où je n'ai rien pour remplir les journées vides qui s'étirent à l'infini devant moi. Les soirées mondaines que je redoutais tant au début sont aujourd'hui une diversion bienvenue. J'apprécie même le défi des exigences sans cesse croissantes de Jack en matière de menu, parce que, en cas de triomphe comme samedi dernier, le goût du succès rend mon quotidien tolérable. Telle est ma vie. Environ une demi-heure après son retour, je l'entends monter l'escalier, puis marcher sur le palier. La clé tourne dans la serrure, la porte s'ouvre, et il s'encadre sur le seuil. Mon bel époux psychopathe. Pleine d'espoir, je regarde ses mains, mais elles sont vides. « Nous avons reçu un courriel de l'école de Milly, » m'annonce-t-il. « Il souhaite nous parler. » Il s'interrompt pour me dévisager. « Je me demande bien de quoi, » ajoute-t-il. Mon sang se glace. Aucune idée, je réponds, heureuse qu'il ne puisse voir que mon cœur s'est emballé. Eh bien, nous n'avons qu'à y aller pour le découvrir, n'est-ce pas? Apparemment, Janice a raconté à Madame Goodrich que nous comptions venir dimanche et elle suggère que nous y soyons un peu plus tôt, de façon à pouvoir avoir une discussion. Nouvelle pause. Puis, j'espère que tout va bien. J'en suis certaine, j'affirme avec plus de calme que j'en ressens en réalité. Il y a intérêt. Il s'en va en verrouillant derrière lui. Bien que contente que Madame Goodrich ait envoyé ce message, ce qui signifie que je reverrai Milly, un malaise s'empare de moi. Nous n'avons encore jamais été convoqués au pensionnat. Milly sait très bien qu'elle ne doit souffler mot. Il n'empêche. Parfois, je me demande si elle comprend vraiment. Elle ignore la mesure des enjeux parce que... Comment le lui dire? La nécessité de trouver une solution au cauchemar dans lequel nous sommes prises, dans lequel je nous ai plus ou moins mises, m'accable, et je m'efforce de respirer profondément, de ne pas céder à la panique. Je me répète que j'ai presque 4 mois, 4, pour dénicher cette fameuse occasion, cette ouverture par laquelle il faudra que je me débrouille pour que nous passions Milly et moi, puisque personne n'est en mesure de nous aider. Les seuls qui auraient éventuellement pu, inspirés par quelque instinct parental, les avertissant que j'avais des ennuis, sont à présent de l'autre côté de la planète, où ils ont été encouragés à déménager encore plus vite qu'ils le prévoyaient par Jack. Il est si intelligent. Tellement rusé. Il a retourné contre moi tout ce que j'avais pu lui dire. Je regrette de lui avoir confié la répugnance de mes parents à la naissance de Milly, ou qu'ils ont compté les jours en attendant que je tienne ma promesse de l'accueillir. À cause de ses aveux, il a joué sur leur terreur que je revienne sur ma parole et qu'ils soient contraints de s'occuper eux-mêmes de ma sœur. Le week-end où il a exprimé le désir de les rencontrer était moins destiné à demander ma main à mon père qu'à lui débiter que j'avais évoqué l'idée d'envoyer Milly en Nouvelle-Zélande avec eux, car je voulais me marier et fonder une famille. Une fois mon père quasi mort sous le choc, Jack lui a soufflé l'idée qu'il parte le plus vite possible, se débarrassant ainsi de ceux qui auraient peut-être pu me sauver. Je m'assieds sur le lit en m'interrogeant sur la façon dont je vais passer la soirée, puis la nuit. Je ne dormirai pas. Pas quand cette entrevue avec Madame Goodrich plane comme une menace au-dessus de ma tête. Vu de l'extérieur, ça pourrait être l'occasion idéale de révéler la vérité, à savoir que je suis la captive de Jack, et qu'il nourrit des intentions malveillantes irréparables à l'encontre de Milly, et supplier la directrice de me venir en aide, d'alerter la police. Malheureusement... J'ai déjà connu ça. J'ai déjà fait tout ça, et j'ai appris à mes dépens que, dans la seconde, Jack organisera ma chute, si je devais ne serait-ce que respirer différemment pendant cet entretien. Non seulement je serai au bout du compte humiliée et plus désespérée que je le suis déjà, mais il veillera à accomplir sa vengeance. Je tends mes mains devant moi, et leur tremblement incontrôlable me dit ce que je viens seulement de saisir, mais ce que Jack sait depuis le début, lui. La peur est le meilleur moyen de dissuasion qui soit.